Vous ne saviez pas qu'il y avait des cariatides dans l'Ancien Testament. Bonté et fidélité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La fidélité monte de la terre et la justice descend du ciel. Nous les avons entendus, nous les avons vus au psaume 85. Oui, je les contemple, ces colonnes, comme un message de confiance face au danger, surtout au danger du « à quoi bon ?». Et nous les avons en quelque sorte chantés au psaume 36, car malheureusement le psaume 85 n'est pas en chanson dans notre psautier huguenot. Nous avons chanté « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté ». Et puis nous avons voulu entendre une fois de plus cet appel solennel de Moïse, enfin de l'Éternel à travers de Moïse, dans la fin du livre du Deutéronome. « Choisis la vie ». Le choix difficile, mais possible, entre vie et bonheur d'une part, mort et malheur de l'autre. Entre vie et bénédiction d'une part, mort et malédiction de l'autre. Les théologiens savent que la racine hébraïque « tob » peut en effet être traduite par « bien » ou « bonheur », car les deux sont forcément liés. Le bien que l'on fait est le bonheur que l'on éprouve. Et puis, j'ai aimé cette parole de tendresse aussi de Paul aux Colossiens que nous avons relue avec émotion. Revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, de douceur et de patience, un appel à une vie fraternelle et généreuse. Mais nous avons ensuite et enfin, ou au début de cette méditation, ouvert l'évangile sur ce dialogue qui pourrait avoir lieu aujourd'hui encore entre un homme indigné ou un homme passionné de perfection, décidé à tout faire sur cette terre pour hériter le ciel. Alors, chez Matthieu, maître, que dois-je faire de bon ? Avoir la vie éternelle. Réponse, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et puis, chez Marc, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Et la réponse de nouveau, pourquoi m'appelles-tu le bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et alors, ce qui frappe, c'est qu'à la question « que faire de bon ?», Jésus répond « un seul est bon Dieu ». Donc, il place l'être avant le faire. Il met l'être au-dessus du faire. Seul celui qui est bon peut faire le bien. Et dans un sens, cela n'appartient qu'à Dieu d'aller ainsi de l'être au faire, de l'identité à l'activité. Mais Dieu nous donne un moyen de faire ce chemin aussi. Et paradoxalement, à peine Jésus a parlé de cet être de bon de Dieu, il s'agit, nous dit-il, tout de suite de commencer une fois par faire. Et nous dit-il, la loi est inventée pour cela. Les 10 commandements sont pour le peuple en partance vers l'Exode, un mode de vie, choisis la vie, et pour ce peuple en errance, un code de la route marche devant ma face. Il m'est arrivé de dire aux catéchumènes, c'était un code de la route, ça leur paraissait sans doute plus clair. Tout se passe donc comme s'il y avait, et je le crois, un enracinement de l'action dans la conviction. Mais en même temps, comme une pratique, le faire induisant une mystique. Ou en d'autres termes, une fois de plus, la morale ne saurait être séparée de l'Évangile. On comprend donc que les nombreux auteurs qui se penchent actuellement sur le chevet de nos églises, il y a quelque chose là qui s'est éteint, alors je m'interromps une petite minute pour que vous m'entendiez jusqu'au bout. Bon, tant mieux. Alors, je dis que les nombreux auteurs qui se penchent dans notre protestantisme francophone, et notamment helvétique, au chevet de nos églises, des pasteurs, des théologiens, des sociologues, eh bien, ils évoquent à la fois l'importance d'un retour à la spiritualité contre l'affolement du changement des structures, Et non seulement ils invitent à un retour de nos églises vers la spiritualité, mais aussi vers l'exigence éthique. Il est vrai que pour le protestantisme, il y aura toujours une difficulté par rapport au catholicisme, c'est de ne pas pouvoir faire entendre une seule voix parmi les grands enjeux de ce temps. Néanmoins, il y a des déclarations, il y a des actions qui tiennent lieu de messages de nos églises face à notre société. Bon, en ce qui me concerne, j'arriverai au bout de mes notes, je les connais quand même un peu. Je crois que la question pourrait de nouveau être posée à Jésus actuellement, que faire pour avoir la vie éternelle? Ou plutôt, en termes modernes, cela donnerait comment acquérir une qualité de vie valable et efficace, ici et maintenant, une qualité de vie efficace et durable maintenant, pour demain et pour après-demain aussi. Y a-t-il, beaucoup de gens se le demandent, encore un avenir? Choisir la vie, dira-t-on, mais quelle vie pour l'individu, pour la société? Que faire de bon? Que faire de bon pour y parvenir? Je crois que nous sommes alors ici en dehors de la seule question religieuse et que derrière les questions que les hommes se posent, sans référence religieuse, il y a la grande question de Dieu. Sans vouloir toujours l'admettre, le monde des indignés et des militants se pose la question de Dieu ou sent que cette grande question de Dieu est derrière. Alors, en cette année, Jean-Jacques Rousseau, du 3e centenaire de sa naissance, et devant les quelques enjeux que je viens de mentionner et qui nous sont extrêmement quotidiens, je me suis demandé quel pouvait être le message du promeneur solitaire et du vagabond de l'esprit dans cette situation. Parce qu'on a beaucoup fait de caricatures de lui, mais Dieu merci, en cette année, je crois qu'on est largement partout un peu en train de lui rendre raison. Alors bien entendu, quand on veut se pencher sur les convictions de Jean-Jacques Rousseau, il faut se pencher sur la célèbre profession du vicaire savoyard. Cela va bien quand on est en Savoie et en Haute-Savoie de penser à ce personnage qu'il a imaginé donnant des conseils à un jeune homme. Alors j'ai un peu travaillé sur les œuvres complètes, notamment dans la Pléiade avec plein de notes, mais je vous signale un excellent ouvrage, une réédition de la profession de foi du vicaire savoyard par un professeur de théologie, M. Pierre-Olivier Léchaud. Alors non seulement il réédite, mais il commente et il introduit. Mais je me suis aperçu que le travail que j'avais fait avant n'était pas trop en dehors de la plaque, donc je me suis permis quand même de vous le présenter. Alors, on pourrait citer une très belle invocation, adoration de Rousseau dans ce passage. C'est très beau d'entendre ces mots. J'adore le pouvoir de l'être suprême et je m'attendris sur sa bonté. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne ce culte. Il m'est dicté par la nature elle-même. N'est-ce pas une conséquence de l'amour de soi, d'honorer ce qui nous protège et d'aimer ce qui nous veut du bien? On est de nouveau en pleine tradition biblique. Honorer ce qui nous protège, aimer ce qui nous veut du bien. Mais, contrairement au slogan du Rousseau qui croit à la bonté de l'homme, attention, très vite vient la question du mal. Je le cite. « Le tableau de la nature ne m'offrait qu'harmonie et proportion, celui du genre humain ne m'offre que confusion et désordre. Le concert règne entre les éléments et les hommes sont dans le chaos. Les animaux sont heureux, leur roi seul est misérable. Ô sagesse, où sont tes lois? Ô providence, est-ce ainsi que tu régis le monde? Être bienfaisant, plein de bonté, qu'est devenu ton pouvoir? Je vois le mal sur la terre. » Et c'est d'ailleurs par une phrase très très connue que commence la profession de foi du vicaire savoyard. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Au pourquoi et à la réalité du mal pratiqué par l'homme, on aurait pu lire le psaume 14, « Aucun ne fait le bien ». Rousseau répond par cette interpellation. Mais écoutez, cette interpellation, c'est quasi une confession des péchés. Homme, ne cherche plus l'auteur du mal, cet auteur c'est toi-même. Il n'existe point d'autre mal que celui que tu fais ou que tu souffres, et l'un et l'autre te vient de toi. Et voyez-vous, je n'ai pas voulu rallonger les lectures, mais en lisant Rousseau dans ces lignes, que je vais vous citer, on croirait entendre Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 7, balançant entre le vouloir le bien et le faire le mal. Rousseau. L'homme n'est point un. Je veux et je ne veux pas. Je me sens à la fois esclave et libre. Je vois le bien, je l'aime et je fais le mal. Je suis actif quand j'écoute la raison, passif quand mes passions m'entraînent, et mon pire tourment quand je succombe et de sentir que j'aurais pu résister. On a beaucoup reproché de manière un peu globale à Rousseau d'être le champion d'une religion naturelle, mais il n'est pas difficile de trouver dans ses écrits, dans sa piété, dans sa sensibilité, des traces de la grâce et de l'Évangile, et de cet amour du Dieu seul bon qui est le thème de notre méditation. Écoutons cette invocation, ce psaume pratiquement, source de justice et de vérité. Dieu clément et bon, dans ma confiance en toi, le suprême vœu de mon cœur, et que ta volonté soit faite. En y joignant la mienne, je fais ce que tu fais. J'acquiesce à ta bonté, je crois partager d'avance la suprême félicité qui en est le prix. Donc il y a aussi le ciel et la terre dans la prière de Rousseau. Et oui, j'ai déjà parlé d'une confession des péchés. En fait, il y a un aveu de maladie et de faiblesse, mais ensuite qui s'ouvre à la possibilité de la vérité et du pardon de venir. J'ai fait ce que j'ai pu pour atteindre la vérité, mais sa source est trop élevée. Quand les forces me manquent pour aller plus loin, de quoi puis-je être coupable? C'est à elle, la vérité, la grâce, de s'approcher. Il y a là comme une assurance de la grâce. Et la dimension de la prière, il est intéressant d'en parler, même si ça nous paraît un petit moment nous écarter de notre sujet. À propos de la prière, le vicaire dit qu'il converse avec Dieu. Je converse avec Dieu. Je pénètre toutes mes facultés de sa divine essence. Je le bénis de ses dons, mais je ne le prie pas. Que lui demanderais-je? Qu'il changea pour moi le cours des choses, qu'il fit des miracles en ma faveur? Réponse, non. Il y a un grand débat entre Rousseau et les autres théologiens sur la question des miracles, je ne l'ouvre pas ici. Mais en réponse aux attaques de Genève et à la condamnation de l'Émile et du contrat social, car il a réussi à se mettre à dos aussi bien l'Église catholique que l'Église protestante, Jean-Jacques Rousseau exprime sa conviction de la prière et il évoque le Notre Père que nous dirons ensemble tout à l'heure. De toutes les formules, l'oraison dominicale est sans contredit la plus parfaite. Mais ce qui est plus parfait encore, c'est la résignation aux volontés de Dieu. Non point ce que je veux, mais ce que tu veux. L'oraison dominicale elle-même est tout entière dans ses paroles. Que ta volonté soit faite. Ça n'empêchera pas Rousseau d'être engagé dans les combats de cette terre et de vouloir que les choses changent. À propos de la Bible, la majesté des Écritures m'étonne, dit-il, mais la sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Il y a toujours l'intellect et la sensibilité. Et, pour l'authenticité de la Bible, se peut-il qu'un livre à la fois si sublime et si simple soit l'ouvrage des hommes? Peut-être le plus important, finalement, c'est de voir aussi, avant que nous revenions à notre sujet et à notre actualité, la comparaison que Rousseau, par la voix ou par le texte du vicaire, fait entre Jésus et Socrate. La mort de Socrate, philosophant tranquillement avec ses amis, est la plus douce qu'on puisse désirer. Celle de Jésus expirant dans les tourments, injurié, raillé, maudit de tout un peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate, prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui la présente et qui pleure. Jésus, au milieu du supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Cette phrase souvent citée ensuite, « Oh oui, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. » Je crois que nous sommes revenus ici, par ce petit détour à la fois trop long et trop court, vers l'essentiel de l'Évangile. Je dirais même que, dans ces paroles lues, dans cette conviction de Rousseau, la croix n'est pas loin. Et alors je demande en fait à ceux qui cherchent, qui espèrent et désespèrent tout à la fois devant le spectacle affolant de notre monde, en ce temps où nous nous rendons bien compte qu'il nous faut nous garder aussi bien d'un optimisme léger que d'un pessimisme pesant, en ce temps où se pose la question du mal omniprésent et de comment faire le bien, nous aurions aussi envie de nous tourner vers Jésus et lui dire « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie qui ne finit pas et qui commence bien dès ici ?» J'étais tombé jadis sur un petit livre que je crois avoir égaré ou donné, un petit livre piétiste dont le titre était « Que ferait Jésus à ma place ?» Mais je ne crois pas que Jésus puisse être simplement ainsi modèle ou donneur de conseils ou de recettes. Non, quand il répond « Un seul est bon, Dieu », il ne nous renvoie pas à Dieu, Deus ex machina, à Dieu comme celui qui pourrait tout bien faire, qui devrait, sans nous et à notre place, tout régler, faire le bien. Jésus renvoie immédiatement, non seulement à l'adoration du Dieu seul bien, mais à notre responsabilité, c'est-à-dire à la réponse que nous pouvons donner aux questions, aux solutions qu'il nous incombe d'apporter aux problèmes, à la compassion qu'attendent de nous les malheureux, et je le crois, à la solidarité qui nous lie à tous les militants. En renvoyant son interlocuteur à la loi juive, au décalogue, Jésus rappelle tout ce qui est utile, suffisant, nécessaire à la vie commune entre les hommes et tout ce qui compte pour un vrai culte rendu à Dieu, le nom, le jour, la sainteté, à Dieu le seul bon, à sa première place dans le culte du dimanche et dans le service de la semaine. Choisis la vie, cette vie. Par là même, Jésus montre tout ce qui construit l'homme dans sa dignité personnelle. Car en fait, les six commandements concernant la vie humaine nous construisent contre le mensonge, contre l'adultère, contre la fuite. Il permet de voir tout ce qui construit l'homme dans sa dignité personnelle, tout ce qui permet l'équilibre et l'équité dans la communauté nationale, religieuse, sociale, familiale. Malgré l'évolution de la vie en société depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant, malgré ce que l'on nomme le progrès qui est très ambigu, car on peut dire que le progrès a permis, notamment technique, à la fois une vaste propagation de ce qui est le meilleur et le bien possible, les messages que l'on peut s'envoyer, les informations que l'on peut se donner, le Google sur lequel les étudiants se penchent pour travailler, d'une part, la plus vaste propagation de ce qui est bien et la plus terrible contagion des mots que les hommes, des mots MAUX bien sûr, que les hommes peuvent se faire entre eux. Donc tout cela menace à la fois la personne et la société corps et âme, mais je crois qu'en définitive, les analyses du pourquoi et du comment remédier à tout cela ne sont pas si différentes pour notre époque, pour celle de Rousseau et pour ce qui nous est dit des temps bibliques. Je crois que nous sommes invités par l'Évangile à une grande lucidité et à une totale honnêteté. C'était le combat de Rousseau, c'est le nôtre, c'est celui de chaque fois que l'Évangile est bien conçu et bien vécu, d'éviter les simplifications intellectuelles qui divisent les esprits. Ce sont ces simplifications intellectuelles qui nous valent le succès notamment des sectes, comme des dogmatiques qui, pour tranquilliser un instant les gens, finissent par stériliser les confiances, bien entendu aussi par toutes les solutions autoritaires qui écrasent les peuples pour pallier les dérives libertaires. Oui, je crois que l'Évangile nous aide à faire l'équilibre entre la lucidité, l'honnêteté d'une part et la facilité d'autre part. Dieu seul est bon, contrairement à ce qu'une opinion débile, dégradée et hélas trop répandue prétend, ce ne sont pas les religions qui sont à l'origine du mal, mais dans la façon dont certains croyants confessent un seul est Dieu, un seul est bon. Car chaque fois que quelqu'un prétend « Mon Dieu est le seul bon, il est le seul bon », il se donne toutes les raisons de combattre et d'éliminer les partisans des autres dieux. On tombe en pleine intolérance religieuse, et même à l'intérieur des confessions, ceux qui excluent par là même les adorateurs et les servants d'un même Dieu. Il y a une intolérance écuménique au sein même du dialogue, comme il y a une intolérance interreligieuse. Par contre, et c'est ma conclusion, si j'ose dire, ou mon envoi, si je reconnais dans chaque croyance, et même dans chaque philosophie, dans chaque projet éthique, non pas l'intérêt égoïste, ou l'esprit dominateur, ou la société fermée dont Bergson a si bien parlé, mais si je reconnais dans la conviction, la philosophie, le projet éthique, une référence ultime, ou quelqu'un qui inspire l'esprit, alors je serai conduit avec d'autres vers une vie digne d'être vécue ici et maintenant. Et la qualité même de cette vie partagée pourra, je le crois, me faire imaginer et espérer son sursaut vers une autre dimension de l'être que Jésus appelait la vie éternelle. Je crois que chacun de nous peut, à profit et à salut, comme on dit, méditer ces mots de Jean-Jacques Rousseau par lesquels je termine, en faire un credo, y trouver une discipline et surtout y voir la promesse du Dieu seul bon. Je cite, « Il nous a donné la raison pour connaître ce qui est bien, la conscience pour l'aimer et la liberté pour le choisir. » Amen. Thank you.